Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction avec vous, bien entendu, mais aussi surtout avec notre invité. C'est un artiste, un chanteur. Il a fait swinguer des millions de Français à travers ses chansons cultes. Hein. Alors, je ne veux pas toutes les citer, pardon. Il y a notamment Suzette, évidemment, ou Viens Saint-Germain. Bien. Je l'ai déjà en tête. Un artiste, évidemment, qu'on considère comme aussi, peut-être comme un des derniers romantiques de la chanson française, hein, des textes de toute beauté. Je voudrais tant que tu me...
Ah oui, c'est bien, c'est pas la plus connue, ça me fait plaisir ouais. qu'on sorte.
Je voudrais tant que tu me donnes. Ouais. Il a déclaré également sa flamme à maintes reprises à la junte féminine, tant qu'il y aura des femmes.
Voilà. Le monde aura une âme.
Voilà, et s'il vient nous voir aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un grand homme qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Il aime aussi Frank Sinatra, et cet homme qui a disparu a largement influencé sa carrière musicale. Dany Briand, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le Buzz Télé. Votre actualité, c'est Chantons Aznavour, titre d'une émission que vous animez demain, vendredi 10 décembre, en prime time sur la chaîne France 3, un programme auquel, au cours duquel, évidemment, vous allez reprendre des duos, hein, du Grand Charles, comme on dit. Vous faites également référence à votre dernier album, hein, en hommage à cet artiste français. Vous allez également diffuser quelques images d'archives au cours de cette soirée. C'est quoi la rencontre Dany Briand, Charles Aznavour ?
D'abord, je pense que dans tous les métiers, quand on commence, il y a un maître. Je pense que vous en avez un, en tant que journaliste ou en tant qu'animateur, je ne sais pas. Mais j'ai besoin d'avoir un idéal qu'on aimerait atteindre un jour. Et j'ai choisi toujours, j'en ai deux. J'ai Aznavour et Sinatra. Bon, et Aznavour, j'ai eu la chance de le connaître, et de l'avoir comme maître. Et en plus, il me suivait. C'est-à-dire qu'il venait à mes concerts, j'allais aller aux siens. Et il me donnait des conseils. Donc, pour moi, c'est magnifique de présenter cette émission. C'était comme pour lui rendre hommage et comme pour lui dire merci de tout ce qu'il m'a apporté.
Et les chansons, j'imagine, y en a beaucoup que vous adorez d'Aznavour. Pour vous, la référence, il y avait une chanson maître?
Alors, pour les artistes, je crois que c'est « Je me voyais déjà ouais. ». Parce que ça raconte l'histoire d'un type qui croit à son idéal, à son rêve, et puis qui n'y arrive pas tellement. On sent toute l'amertume dans la chanson. Et c'est vraiment la chanson, dans ce texte, ça aurait pu tous nous arriver. Parce que quand on décide de faire ce métier, il n'y a aucune sécurité de l'emploi. Et donc, on peut ne pas y arriver. Donc, cette chanson-là, elle porte vraiment tous les espoirs d'un artiste qui n'y arrive pas dans la chanson. Mais Charles Aznavour y est arrivé. Donc, on se dit, il peut chanter des chansons de gens qui n'y arrivent pas, mais il y arrive grâce à cette chanson.
Et ce lien avec Charles Aznavour, il est venu très tôt, de votre part ?
Moi, je l'ai vu, c'est mon premier concert. Donc, je l'ai vu à 11 ans. Ma mère m'a emmené à
l'Olympia. Marc ?
Ouais, bah oui, c'était mon premier concert à l'Olympia. Bon, ma mère écoutait ça toute la journée, donc j'avais l'oreille déjà un peu habituée. Mon père devait y aller, c'est pas tellement un chanteur pour les enfants. Aznavour, il parle de choses assez adultes. Mais bon, mon père était coincé dans un métro, je ne sais plus quoi à l'époque. Et ma mère m'a emmené parce qu'elle avait deux places. Et là, j'ai eu un coup de foudre, j'étais subjugué. Mais partout, hein, par les lumières, par la voix, par même les textes, même si je ne comprenais pas tout. Et après, je ne pensais pas que j'allais être chanteur, mais il a allumé quelque chose en moi, à cet âge-là, à 11 ans. Et après, à 18 ans, je me suis mis à chanter, et je l'ai toujours pris comme modèle et référence.
Une référence. Nous sommes en direct avec Dany Briand sur Figaro Live, je rappelle, diffusé sur lefigaro.fr, mais également la page YouTube de TV Magazine. Dites-nous tout, est-ce que vous suivez la carrière de Dany Briand? Est-ce que vous l'avez suivi aussi comme acteur? Parce qu'il a eu, en effet, quelques rôles au cinéma. Dites-nous tout, et là... Ce sera dans un rôle d'animateur, on change un peu de casquette, dites-nous tout. Et en attendant, on retrouve Damien Canivez pour les news médias du jour. Bonjour Damien.
Bonjour Philippe, bonjour Dany.
Dany Briand démarre toujours les news médias du jour par les audiences télé de la veille.
Effectivement, et là c'est M6 qui monte sur la première marche du podium grâce à la première demi-finale de la France. Un incroyable talent, cette émission toujours portée par Karine Le Marchand a rassemblé 2,9 millions de fidèles qui ont applaudi les artistes qui se sont succédés sur scène, ce qui représente 15,4% de part d'audience. Juste derrière, on retrouve France 2 qui poursuivait sa série française intitulée Le Code, un score en légère baisse hein, par rapport à la semaine dernière. Si on doit comparer ce chiffre, sur la troisième marche du podium, on retrouve TF1 qui continuait sa série américaine New Amsterdam, 2,4 millions de téléspectateurs, 11,3% de part d'audience. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui se trouve au pied du podium. Il s'agit de France 3 qui dégainait un nouveau numéro du magazine Déraciné des ailes, toujours porté par Carole Gessler, 11,3% de part d'audience.
Vous êtes quel genre de téléspectateur? Gros consommateur de télé ou petit consommateur de télé, globalement?
Non, je choisis mes émissions. J'aime beaucoup les émissions d'actualité, les émissions littéraires aussi, et les émissions musicales. Voilà. Ah, c'est en rapport avec mes goûts, avec de ce que je fais. J'aime beaucoup les films, mais les films, on en voit de moins en moins, les films de cinéma à la télévision, donc je vais les regarder sur le câble.
Sur le câble ?
Oui.
Ah oui, donc sur les chaînes payantes.
Oui, sur les chaînes payantes. Ouais.
Et Netflix, par exemple, ou les nouvelles plateformes de SVOD ou pas ?
Moi, je ne suis pas très série. Je n'arrive pas à suivre, mais j'aime bien les films. Sur Netflix, ils commencent à en mettre quelques-uns, mais surtout des anciens films français, tout ça que j'aime beaucoup. Voilà.
On poursuit ces informations médias avec la lauréate du prix de l'humour politique qui a été désignée mardi dernier.
Ah oui, la grande gagnante de cette édition 2021 du prix de l'humour politique est roulement de tambour, Marlène Schiappa. Vous savez, Marlène Schiappa qui est la ministre chargée de la citoyenneté pour l'ensemble de son œuvre, il faut le dire, mais surtout pour cette phrase qu'elle a prononcée à l'occasion d'une interview sur Radio J, je vous la cite, « On ne va pas s'interdire les plans à trois ». Voilà, elle défendait à cette époque la loi dont l'objectif était de lutter contre la polygamie. Alors, pour rappel, le prix de l'humour politique récompense une personnalité qui a prononcé à la radio ou à la télévision une phrase particulièrement drôle. L'année dernière, aucun prix n'avait été décerné en raison de la pandémie de Covid-19. Mais le dernier grand gagnant de ce lauréat date de 2019. Du coup, il s'agissait du Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, qui avait répondu « Non, seulement les emmerdes » quand un journaliste lui indiquait que tout remontait à Matignon.
C'est assez mignon. Ouais. Le regard du citoyen que vous portez là sur la phase démocratique dans laquelle on entre de la campagne présidentielle.
Bah écoutez, c'est très intéressant. Je vois qu'il y a les extrêmes en fait montent de part et d'autre, ouais. Et qu'il y a très peu de voix au centre. Voilà.
Et l'inquiétude de
la gauche recule un peu, j'ai l'impression.
Voire elle est inexistante aujourd'hui.
Voilà. Ouais, il n'y a pas une voix de gauche très très puissante comme il y avait avant. Moi, j'ai grandi avec la génération Mitterrand, donc c'était une autre dimension quand même. Voilà, bon, bah, écoutez, on verra. Moi, je choisirais toujours ce qui est le plus raisonnable, ce qui est au centre. Ouais.
C'est dit.
Pas d'extrême.
On connaît votre opinion. Voilà. On termine ces infos médias avec quelques détails concernant la prochaine saison de Squid Game sur Netflix.
Effectivement, il y a quelques semaines, nous vous annoncions sur ce plateau que le réalisateur et créateur de la série coréenne allait créer une suite. Et dans une interview accordée cette semaine à Entertainment Weekly, il considère que le personnage principal apparaissait comme quelqu'un de passif et que son humanité était distillée dans certaines scènes. Dans le prochain volet, qui s'annonce encore plus sombre que le premier, il est déjà assez dur. Le deuxième s'annonce encore plus compliqué et le héros sera très certainement tiraillé entre le bien et le mal, fort de son expérience dans le jeu dévastateur auquel il a participé. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé cette série, de quel jeu je parle ? Eh bien, il s'agit de ce divertissement qui se trouve au centre de la fiction où des personnes surendettées s'affrontaient pour remporter le jackpot de plusieurs dizaines de millions d'euros. À chaque épreuve, les perdants mouraient et les vainqueurs pouvaient enfin accéder à l'étape suivante et seul un vainqueur pouvait remporter le magot.
Voilà. C'est gay.
Ah ouais, c'est bah
disons, Squid Game. J'espère que mes enfants ne vont pas regarder.
Ils l'ont peut-être déjà regardé, vous ne saviez pas.
J'espère que non. Non. Ou alors, j'espère qu'ils le regardent, mais que ça n'a aucune influence sur eux.
Bien sûr.
Donc, vous n'êtes pas très série, donc vous n'avez pas regardé Squid Game.
Non, mais je n'aime pas le thème de la série d'être enrôlé, d'être envoûté.
Les épisodes, de vouloir suivre.
Je préfère un film d'une heure et demie, deux heures, et puis après, je passe à autre chose. Non, j'aime pas tellement. Ouais.
Vous n'aimez pas vous poser devant une série, devant votre canapé, vous disant.
Non, j'aime pas les suites, j'aime pas. Vous savez, souvent, je vois quand les films marchent, il y a des suites 1, 2, et je trouve que ça s'affaiblit au fur et à mesure. Donc, je suis persuadé que les séries, au bout d'un moment, même quand on fait une deuxième série, par exemple, sur le sujet, je suis sûr que ça s'appauvrit.
C'est souvent le cas, ouais, malheureusement.
Merci Damien pour CNews Média et place tout de suite à l'interview du Buzz Télé avec Dany Briand. Anton Aznavour, c'est ce vendredi en prime time, hein, je le redis, sur France 3, une soirée en hommage évidemment à cet artiste qui nous a quitté il y a déjà plus de deux ans. Ouais. Concrètement, quel va être un peu le menu de cette soirée? Comment elle va s'articuler?
En fait, le concept, c'était de ne pas faire une émission mémorielle avec des archives et tout. C'était de revisiter les chansons de Charles avec la nouvelle génération ou l'ancienne sur une salle de spectacle qui est pour moi vraiment encore l'incarnation du musical, c'est les Folies Bergères, où a débuté Joséphine Baker, où il y avait cette tradition qu'aimait Charles du musical. Et donc, voilà, on a fait venir... moi, j'avais fait un album, Hommage à Charles, donc c'était déjà un peu en boîte. Il y avait des chanteurs qui avaient déjà chanté avec moi, mais on a élargi. Après, on a invité des gens, même de l'ancienne génération, parce que dans cet album-là que j'ai fait, j'avais invité surtout des gens de ma génération. Donc, on a invité Julien Clerc, Sheila, Adamo. Et ça donne un panel très, très large de toute l'influence qu'a eu Charles sur nous depuis 70 ans. Parce que c'est un chanteur qui a... Son premier tube date de 1947, quand même.
Et le choix, justement, les artistes que vous citiez, c'est vous qui l'avez opéré? C'est fait un peu au petit bonheur la chance ou en fonction, j'imagine, aussi Alors, affinités par rapport à Charles Aznavour?
Oui, c'est ça. C'est des gens que Charles adorait déjà, parce que j'étais un peu ami avec Charles, je connaissais ses préférences, donc je n'ai pas invité un chanteur qu'il n'aimait pas trop. C'est des gens qu'il adorait.
C'est pas personne.
Voilà. Non, non, mais bon, il avait ses têtes, c'est comme tout. Hein. Vous savez, la musique, c'est subjectif. Donc, Si vous voyez des anniversaires de Charles, il y en a eu pas mal dans les années 90, 2000, vous voyez les chanteurs qu'il aime, qu'il affectionne. Alors dans cette émission, ça se retrouvent les chanteurs qu'il aime. Il y a Bruel, il y a Chimène Badi, il y a Pascal Obispo, voilà, il y a Ben Abar, et c'est tous des gens qu'il aimait beaucoup.
C'est varié finalement.
C'est très varié, oui. Ouais.
À sa mort, la télévision n'a pas organisé d'hommage, hein, comme il y en a eu pour Johnny Hallyday ou même pour Belmondo. Il faut le regretter d'une certaine manière ou pas?
Je ne sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient. C'est vrai que la mémoire de Charles n'a pas été célébrée si on fait un parallèle avec Johnny. C'est vrai que Johnny, ça a été immense. Voilà. Et Charles. Mais c'est lui qui était comme ça aussi, j'ai l'impression. Parce que regardez la différence d'hommage entre celle de Johnny à la Madeleine et celui de Charles.
Aux Invalides.
Ouais. C'est pas le même, vous voyez, c'est pas la même ambiance.
Pas sur le même registre.
C'est pas le même registre. C'est plus sobre, c'est plus. Il y avait très peu d'invités avec Charles.
Assez en retenue, on a l'impression aussi.
Oui, ouais. Charles était parce qu'il était comme ça. Bon, il était moins peut-être show business, moins solaire, mais il laisse une œuvre en tout cas. Une œuvre, c'est un des plus grands poètes de notre génération. En fait, voilà. Donc, mais moi, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que ça, par un concours de circonstances, j'ai décidé de faire un hommage dans un album. Et puis après, tout s'est enchaîné. À travers cet album, on m'a demandé de faire un hommage à la télé. Et puis alors, les copains du métier sont venus. Vous voyez, c'est quelque chose que je n'ai même pas décidé. Ça s'est fait naturellement, cette émission, en fait.
Damien, une première réaction, question pour Dany Briand.
Oui, nous sommes en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur le Figaro.fr. On salue Rico qui est avec nous, comme chaque matin, également Jean-Laurent, qui a une question qu'on essaiera de poser un peu plus tard. Mais on va prendre tout d'abord une question de Jean-Louis sur Twitter, qui note que comme Charles Aznavour, vous êtes issu d'une famille immigrée. C'est vrai que vous êtes né à Tunis, hein, je crois. Est-ce que vous gardez des liens avec votre terre natale? Est-ce que vous y retournez de temps en temps? Est-ce que vous avez de la famille là-bas?
Écoutez, oui, c'est vrai que je suis un immigré, c'est-à-dire que je suis arrivé en France, ouais. Comme ça, après un petit problème politique, voilà, en 67. Et c'est vrai que je pense que le fait d'être immigré, ça doit donner, ça doit mettre dans une autre dimension de... C'est vrai que j'ai toujours aimé les chanteurs un peu étrangers. Et Charles Aznavour était un immigré. Et dans sa musique, on entend le déracinement, on entend le voyage, on entend l'Arménie. On entend la souffrance du peuple, on entend la volonté de s'intégrer aussi dans ce pays de la France, on entend aussi la volonté de prendre la langue française comme un pays. Et d'ailleurs, il l'a tellement fait que Charles Aznavour, c'est le chanteur français le plus international. Parce que, voilà, et alors qu'il n'est pas français à la base, en fait. Il est né en France, c'est vrai, mais ses parents n'étaient pas français. Donc j'ai trouvé que c'était magnifique. C'est le chanteur français le plus connu au monde, alors qu'il n'est pas français de culture. Et j'aime bien cette idée que la France, la langue française, en fait, soit même pas attachée à un territoire, mais voyage dans le monde entier.
Un rayonnement dans le monde. C'est la première fois que je crois que vous animez une émission de télévision. C'était compliqué pour le chanteur que vous êtes de se glisser dans la peau de l'animateur, d'une certaine manière, pour une soirée?
Alors, je ne l'ai pas fait du tout comme un animateur. Je l'ai fait, c'est pour ça que les producteurs, je leur ai demandé de ne pas faire ça dans un studio de télé, de faire ça dans mon élément.
Salle de spectacle, donc.
Une salle de spectacle, le music hall, avec un orchestre qui joue en live. Et comme ça, j'étais bien. Et j'ai reçu des amis, comme dans mon salon, puisque moi, sur scène, je suis sur scène depuis 35 ans, donc je suis un peu à l'aise. Peut-être plus à l'aise que dans une émission de télé, avec un show de variété. Il y a des professionnels qui font ça très bien. Moi, j'étais chez moi, en fait. J'étais sur scène, j'ai reçu des amis, et on a chanté les chansons que j'aimais. Donc ça allait.
Comme à la maison.
Voilà, comme à la maison, on peut dire ça.
Damien.
Allez, on va prendre une question de Maurice, qui note que vous vantez beaucoup les mérites de Paris dans vos chansons. Est-ce que vous vous retrouvez toujours dans les charmes de la capitale? Alors, c'est vrai que dans de nombreuses chansons, vous parlez de Paris. Hein.
Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup Paris.
Vous voulez dire à Suzette que vous l'aimez autour d'un petit café crème sur le bord des quais de la Seine.
Ouais, ouais.
Voilà. Oui. Et également une autre chanson, je ne sais plus, vers l'île Saint-Louis, je crois. Enfin,
oui,
il y a
première chanson, c'était Viens à Saint-Germain.
Viens à Saint-Germain. D'ailleurs, oui, voilà, c'est là-bas. Oui.
Mais Paris, c'est un cadre idyllique pour les romantiques, comme je suis. Je crois que je suis profondément romantique. Et je crois que c'est la ville des amoureux. Donc, c'est un cadre, en fait, qui donne de l'inspiration. Ouais. Je crois que les rues de Paris sont truffées d'inspiration qu'on peut capter. Et c'est vrai que je suis très, très marqué par Paris. Ouais,
mais vous comprenez les critiques récurrentes sur la propreté de la ville, par exemple, sur la beauté aussi du paysage urbain qui est parfois un peu entaché par des travaux. Ça, vous êtes sensible à ces critiques-là?
Oui, c'est vrai que Paris, par exemple, si on tournait un film, aujourd'hui, on mettrait dans une rue de Paris, on verrait des travaux. Ça ferait pas rêver le monde entier.
Oui.
J'espère que c'est temporaire.
Oui.
Qui prépare tout ça pour les futurs en 2024.
Ouais, les futurs jeux.
J'ai l'impression qu'il prépare. Alors on peut attendre, on patiente, mais c'est vrai que Paris n'est pas sous son meilleur jour. C'est comme une femme qui est en mise en pli et un jour elle va aller chez le coiffeur et puis on va la trouver magnifique. J'attends ça avec impatience.
Ça manque un peu de romantisme. En fait. Vous avez cité beaucoup d'artistes, hein, Obispo, Fiori, Vincent Duclos aussi. Angoune sera là également, mais aussi l'acteur Franck Dubosc, Nikos Aliagas.
Alors, ça, c'est les gens qui
vous sont... Vous avez fait venir des animateurs.
C'est-à-dire qu'il y a, il y a deux différences. Il y a ceux qui sont venus sur l'album, hommage à Charles, oui, et ceux qui sont venus à l'émission de télé. Tout le monde n'a pas pu venir. Dans les gens que vous citez, ils n'ont pas pu tous venir. Je pourrais vous les citer. Il y a Obispo qui est là, il y a Bruel, il y a Carla Bruni, il y a Ben Abar. Voilà, c'est en fonction des plannings. Il y a Julien Clerc qui est là. Ben, je le vois, il y a Bruel. Enfin, voilà, ils sont là. C'est pas mal, ouais. Il est bien, je ne l'avais pas vu encore, le spot. Non, c'est pas mal.
Il est plutôt bien fait, ouais.
Non, mais ce qui est bien, vous voyez, c'est qu'on n'a pas fait ça dans un studio de télé. Ouais. On a fait ça dans notre élément à nous, c'est le théâtre. Il y avait un vrai public devant nous. Comme on n'avait pas joué depuis 2 ans, il y avait une espèce de magie. Vous voyez, on n'était pas dans la performance télévisuelle, on était dans la performance scénique.
Et alors, je vous reprends, hein, Franck Dubosc chante Mes emmerdes, Nikos Aliagas, La Mama. C'est oui, quoi, c'est quoi cette idée de faire rencontrer finalement des métiers assez différents? Ce sont certes des artistes.
Alors, c'est des gens qui ont une relation avec Charles très importante. Charles les aimait beaucoup, Charles aimait beaucoup Nikos. Il aimait beaucoup les comédiens. Charles était comédien. D'ailleurs, moi, je pense que c'était un comédien qui chantait. Ses chansons, c'est des pièces de théâtre. Et vous voyez, c'est quelque chose de très important. Charles était un acteur aussi. Donc, je n'ai pas invité que des chanteurs. J'ai invité aussi des gens qui avaient un lien avec Charles, que Charles aimait, et qui sont dans le spectacle, mais pas forcément chanteurs. Mais en tout cas, c'est des gens qui chantent. Parce que même Nikos Aliagas, il chante très, très bien, La Mama. Franck Dubosc, il chante Mes emmerdes, donc sur un ton plus décontracté, mais c'est des gens qui chantent pas mal. Hein.
Allez, on va prendre une question tout de suite de Sylvain. De Sylvain qui aimerait savoir si vous aimeriez retrouver une expérience d'acteur. C'est vrai que vous avez effectivement, comme on l'a rappelé tout à l'heure, endossé quelques rôles parfois au
oui,
cinéma.
Ça, discrètement, ça discrètement.
Ouais, c'était des petits rôles, mais vous étiez là.
Ouais, vous les avez vus?
Je les avais vus.
Il ne faut, bah, pas baisser la tête, il ne faut pas refaire ses chemises.
Vous étiez dans La Vérité. Vous avez fait La Vérité si je mens, je crois.
Oui, jusqu'à présent, on ne peut pas dire que j'ai eu le rôle. Mais c'est vrai que j'aime bien jouer à la comédie parce que pour moi, c'est le même métier et tous les gens que j'adore, en fait, ils sont pluridisciplinaires. C'est-à-dire que Charles Aznavour était acteur et en même temps comédien. Comédien, si on peut dire comédien de théâtre, mais ouais. Charles n'a pas fait de théâtre. Sinatra était acteur et chanteur. Ouais. Dean Martin, tous les gens que j'aime, c'est vrai, en ce point commun, c'est qu'en fait, la chanson et la comédie font partie du même. Pour l'instant, je ne me suis pas trop montré dans la comédie, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Mais vous
être prenez quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Je l'ai fait 2-3 fois, mais bon, on verra.
C'est un appel qu'on va lancer.
Bah oui. vous lancez jamais cet appel-là, d'ailleurs, parce que Didier Lepêcheur, je crois, qui a réalisé votre clip Suzette, hein,
ouais,
c'est ça.
Ouais, ouais,
il fait beaucoup de fiction en ce moment à la télévision.
Fiction, ouais.
Vous n'avez pas envie de l'appeler pour lui dire j'existe, moi.
C'est vrai que moi, je suis pas un démarcheur. Je dis pas tu pourrais me mettre dans. Non, je suis pas trop de ce. Mais je pense que je suis assez mystique. Je pense que les choses viennent au bon moment. Ouais. Là, il fallait que je m'exprime dans la chanson, qui est quand même très important pour moi, dans l'oralité. Mais pour l'évolution, c'est pas mal de jouer la comédie. Ouais. D'ailleurs, Charles était comme ça aussi. C'était un chanteur-acteur ou un acteur-chanteur.
Alors justement, dans l'album, vous accueillez également la fille du chanteur, hein, Katia
Aznavour.
Vous reprenez avec elle que c'est triste Venise. Comment s'est opérée cette rencontre avec sa fille?
Bah, Katia, je vous ai dit, je l'ai rencontrée un jour par hasard au Café de Flore. Je lui ai parlé de mon projet, elle a adoré. Elle a appelé ses frères et ils m'ont donné donc leur accord. Et puis je voulais chanter une chanson avec elle. Alors j'en ai proposé plusieurs et sa voix était magnifique sur Venise parce qu'elle avait une voix sublime. Elle a accompagné son père sur scène pendant très très longtemps. Et voilà, donc je crois que nos deux voix se marient bien. C'est quelque chose que je trouvais ça très important qu'il y ait quelqu'un dans l'entourage de Charles qui vienne cautionner le projet. Et je trouve que Katia, c'est vraiment magnifique qu'elle soit. C'est un grand cadeau qu'elle m'a fait de venir chanter avec moi.
Alors, tant du côté de YouTube, Rico, Dany Briand, vous êtes devenu intemporel. Comment, au milieu du rap et autres tendances, vous expliquez cela? C'est vrai que vous n'avez jamais succombé à d'autres sons. Vous êtes resté fidèle à vous, oui.
Je ne sais pas, je n'ai pas calculé. Moi, j'ai fait simplement ce que je sentais. Je sentais qu'il y avait un vide dans les années 80. C'est-à-dire que tout ce qui était jazzy, latino, crooning. Moi, bon, j'étais fan de Sinatra et d'Aznavour. Je trouvais qu'il y avait plus. En tout cas, dans ma génération, personne n'avait repris un peu le flambeau. Donc, j'ai décidé de le prendre. D'abord au cabaret. Bon, et puis après, mon premier tube était très swing. Après, j'ai fait du latino. Et puis voilà, il y avait peut-être un manque dans ce registre. Et puis, j'ai continué. J'ai fait la musique que je ressentais. Mais c'est vrai, je ne me suis jamais demandé si ça passerait dans les radios, si je passerais à la télé. Je ne me suis pas posé le problème de savoir si j'étais formaté pour mon époque. J'ai juste repris quelque chose que je sentais qui était intemporel, comme Léa Aznavour, toute proportion gardée, bien sûr. Et voilà. Et puis, il y a un public qui est venu, qui a aimé ça.
Et vous diriez que vous faites partie un peu d'une espèce, entre guillemets, en voie de disparition, parce que vous êtes assez très peu d'artistes comme vous à avoir gardé finalement La même fibre le...
En France, oui. En France, oui, mais dans les autres pays, non. Parce que moi j'adore les crooners. Donc, si vous allez aux États-Unis, il y a Michael Bublé, il y a Ray Conniff Jr., il y en a plein. Ouais. Mais c'est vrai que la France, bon, le côté jazzy, crooning, peut-être du côté de Django, si on cherche du côté de Django, il y a quand même un courant qui se dessine. Mais voilà, moi, par exemple, le dernier album que j'ai fait, j'ai fait vraiment ça avec l'orchestre de Sinatra, quoi. Moi, c'est ce que j'aime comme musique. Et voilà, ça a pris. Donc, voilà, j'ai continué. C'est parce qu'il y avait un public pour ça, je pense.
Sam, une question justement, maintenant que vous êtes à la télévision, Sam aimerait que vous y restiez. Est-ce que vous aimeriez participer à Danse avec les Stars?
Ah, alors, ça c'est autre chose, parce que là il faut vraiment donner de sa personne.
Ah oui, il faut avoir du temps libre aussi.
Il faut être en très bonne santé, c'est très physique.
Ce qui est votre cas, vous êtes en bonne santé.
Je suis en bonne santé, mais bon, j'ai failli le faire un moment, mais j'avais eu un petit souci, donc j'ai arrêté très vite. Mais c'est vrai que c'est un programme qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup la danse. D'ailleurs, toutes mes chansons, en fait, sont des prétextes à la danse à deux.
Justement, il y a beaucoup de danse latine, le tango, ça se rejoint un peu dans votre album aussi.
Oui, bien sûr.
Danser même sur vos propres chansons.
Ce qu'il y a, c'est qu'il faut beaucoup donner de sa personne. Ouais. Il faut vraiment avoir du temps, il faut bloquer 4 mois. Ouais. En plus, on est en compétition, donc si vous perdez, c'est la honte. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si
mais vous dansez bien ou pas vous...
Bah, je danse. Bon, je suis pas le meilleur danseur du monde, mais c'est vrai que toutes ces danses dans Danse avec les Stars, elles m'intéressent parce que moi, j'ai souvent basé mes musiques sur des danses de couple.
Ouais,
et c'est le projet
qui
dépend.
Ça swing, ça rock.
Voilà, c'est ça. Le rock, le mambo, les danses latines, j'adore tout ça. Après, je préfère, si vous voulez, organiser les soirées, chanter devant des gens qui dansent, que moi danser tout le temps. Parce que,
voilà. Quelques albums précédents, hein, Jazz à Nouvelle-Orléans, Dolce Vita, Viens à Saint-Germain, on en a parlé tout à l'heure, plus encore récemment, Rock en Swing. On se rend compte que vous êtes solaire, joyeux. C'est plutôt une période heureuse. Vous n'êtes jamais mélancolique, finalement. On ne le perçoit pas du tout, en tout cas, à travers vos albums.
Si, je le suis, mélancolique. C'est justement, je fais cette musique-là pour transcender. Vous voyez, par exemple, j'ai toujours pris exemple sur la guerre de 40 ou sur l'esclavage des Noirs qui vivaient des périodes aux États-Unis terribles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le swing, qui est une musique joyeuse, comme pour transcender leur mélancolie. Ne croyez pas que les gens qui chantent des chansons gays le sont. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un baume, comme un médicament, une façon de s'élever du sol parce que la vie est un peu triste. Vous voyez. Donc si j'ai fait du swing, moi, c'est peut-être parce que j'étais quelqu'un d'assez mélancolique.
Une forme de thérapie, on pourrait dire.
Exactement. Et la musique et la danse, en tout cas, c'est une thérapie, ça c'est sûr.
Damien.
Allez, Francis, il aimerait beaucoup que vous lui donniez votre bague, apparemment, qui brille beaucoup. Elle représente quoi pour vous?
C'est une bague que m'a offert mon... Enfin, je ne sais pas s'il me l'a offert, mais quand mon grand-père est décédé, ma mère, en tout cas, m'a donné la bague de mon grand-père et je la prends comme un talisman.
Vous l'avez depuis combien de temps? Ça fait
Depuis toujours. Mon grand-père est disparu en 82, j'ai depuis 82.
Vous l'avez depuis 82.
Ouais. Mais je la fais briller tout ça, hein, parce qu'il faut...
Elle est en parfait état,
on comprend. Oui. Alors, je le prends comme un talisman, un porte-bonheur, mais... Quand je vois les crooners, j'ai vu, ils ont toujours une petite bague au doigt, quand je vois Tom Jones, et je me suis dit, bon, ben voilà, c'est peut-être
la
marque de fabrique des crooners, finalement, la bague. C'est vrai que c'est pas très courant aujourd'hui de voir des mecs avec des bagues. Mais moi, j'ai pris ça comme, voilà, je trouve ça...
C'est un beau symbole.
Elle protège un peu. Oui.
Autre fil conducteur dans vos textes, c'est le romantisme. Vous célébrez souvent quand même l'amour et la beauté des femmes dans nos nombreuses chansons. Est-ce que c'est facile d'être romantique aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, sur tous les débats de sexisme que les hommes sont pointés du doigt régulièrement? Souvent pour des bonnes raisons d'ailleurs.
Oui. Non, mais moi j'ai fait ce métier, pour exprimer justement ce trop-plein de romantisme que j'avais, ce côté rêveur. Et je pense que le monde, j'étais adolescent dans les années 80, ne me proposait pas ce romantisme. Donc j'ai été le chercher peut-être dans d'autres époques, mais en tout cas, j'ai fait de la relation homme-femme un terrain de chansons où on pouvait tout exprimer. Voilà. Alors, je suis romantique, vous savez, une nature, ça ne peut pas se changer. Je n'ai jamais fait de rap, je n'ai jamais fait des choses assez dures, assez sociales. J'ai toujours voulu dire que la vie était belle, voilà. Même si elle ne l'est pas, j'ai pris ça comme emploi. Voilà.
T'es dit.
Une question de Guillaume. Alors, hier, vous étiez l'invité de « On touche pas à mon poste », hein, l'émission présentée par Cyril Hanouna sur C8, et vous avez déclaré, paraît-il, qu'une co-animation était prévue dans cette émission sur France 3, celle dont on a parlé tout à l'heure, chantons Aznavour. Et Guillaume aimerait savoir qui aurait dû être la personne qui aurait dû vous accompagner.
Bah, il n'y avait pas de nom encore, mais comme on savait que je n'étais pas un animateur chevronné, au départ, on s'est posé la question, mais même moi, hein, parce que moi, j'avais les jetons de recevoir en plus des copains, parce que, vous voyez ce que je veux dire, c'est des gens que je connais, là, Julien Clerc, on se rencontre sur tous les plateaux depuis 30 ans, Benabar, Bruel, Obispo, ils sont là, quoi. Même si ce n'est pas toujours mes amis, on est des compagnons de route. Hein. Et donc, c'était quoi la question?
La question, c'était savoir quel était l'animateur ou l'animatrice qui aurait dû vous accompagner.
Ben, on ne savait pas, on voulait mettre une femme. Ouais. Bon, moi, je vois une très jolie femme, donc j'aurais pu choisir. Mais au fur et à mesure que l'émission avançait, on s'est dit non, ben, finalement, Aznavour t'aimait beaucoup, tu vas essayer de la faire tout seul. Et je vous assure que j'étais très inquiet. J'étais très inquiet de le faire. Et j'ai eu un signe qui m'a encouragé à le faire. C'est qu'une semaine avant l'émission, je vous jure, c'est vrai.
Avant l'enregistrement ?
Avant l'enregistrement. Ouais. Moi, je crois beaucoup aux signes. Hein. J'ai croisé Katia Aznavour.
Et là, vous vous êtes dit, c'est
bon. Parce que j'allais m'acheter une chemise pour l'émission et je l'ai croisée dans un magasin. Elle pourra le vérifier. Je me suis dit, non, ça, c'est le signe qu'il faut que je la fasse en hommage à Charles. Alors, j'ai juste fait parler mon cœur. Je n'ai pas forcément de technique d'animateur ou je n'ai pas travaillé ça, vous voyez, comme un. Depuis des années, c'est ma première émission. Je l'ai fait juste avec mon cœur et mon amour que j'avais pour Charles. Et quand j'ai croisé la fille de Charles, je me suis dit, ça, c'est un signe du destin qui me dit, vas-y, tu peux y aller.
Vous ne pouvez plus reculer.
Exact.
Est-ce que, comme Charles Aznavour, vous avez l'intention de chanter jusqu'à 94 ans et de mourir sur scène un jour?
Vous savez, ça c'est pas moi qui ai les clés du...
De la suite.
Non, c'est pas moi, c'est le public. Ouais. Vous pouvez chanter jusqu'à 95 ans si le public est toujours là. Ça, je ne sais pas. Pour l'instant, il est là encore. Voilà, il m'a suivi. Maintenant, c'est lui qui décide. C'est lui le patron, en fait. C'est même pas moi. Moi, je propose quelque chose et puis s'il y a du public dans la salle, ça va. Le jour où il n'y a plus de public, ben, vous ne pouvez pas chanter tout seul. Vous chantez pour vos amis.
Vous pouvez, devant votre douche, ça arrive.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Une dernière question.
Oui, il y a un internaute qui trouve que vous avez des airs de Rocky et que le cinéma devrait vous tendre les bras. C'est vrai, vous avez
des
airs de Sylvester Stallone.
On me le dit souvent, ben, je prends ça comme un compliment. J'ai fait de la boxe, peut-être.
Ouais. Mais entre Sylvester Stallone, je dirais, et Elvis Presley, peut-être.
Ah bah ça, c'est des compliments, parce que c'est des grandes figures du show business. On se construit toujours par rapport à des gens qu'on a admirés. Ouais. C'est vrai que j'ai beaucoup admiré Elvis dans la chanson, comme Aznavour, mais j'ai eu des goûts très éclectiques. Et Stallone, c'est une bonne référence, parce que dans Rocky, quand même, que j'ai vu, j'avais 12 ans, il m'a vraiment scotché. Et c'est vrai qu'on me parle souvent de Rocky. Et d'ailleurs, je crois que grâce à lui, j'ai fait un peu de boxe. Ouais.
Ouais. Ah.
Quand j'ai vu Rocky, je devais avoir 11 ou 12 ans, le premier Rocky. Et ça m'a inspiré de faire de la boxe.
Bon, ben voilà, s'ils veulent faire un spin-off de Rocky,
mais je suis très gentil. Hein. Je suis très gentil. Hein. Je fais de la boxe, mais j'ai jamais frappé personne. Mais je trouve que c'est une bonne discipline pour canaliser en fait son émotivité, son agressivité. Après, on est très gentil.
Ah, vous êtes gentil. Donc, on va pouvoir poser les questions enfin dérangeantes.
Et justement, j'en profite. On vous garde encore un peu d'Annie Briand pour notre dernière rubrique qui s'appelle En toute franchise. Le principe est simple, comme vous l'avez fait depuis le début de cette émission, bah, c'est de nous répondre avec la plus grande sincérité à nos questions. Le plus beau souvenir de votre carrière?
Eh bien, je vais peut-être me répéter, mais je crois que c'est lorsque mon maître, qui est Charles Aznavour, est venu dans ma loge. D'ailleurs, j'ai les images. Et il me dit, comme s'il me donnait un diplôme, il me dit, ça y est, vous êtes un chanteur. Avant, vous étiez un jeune chanteur, maintenant vous êtes un chanteur. Et ça, je peux vous dire, c'était au Palais des Congrès, je me souviens, c'était en 2005, je devais avoir 38, 39 ans. Et lui que j'avais considéré comme mon maître, enfin j'en avais deux, j'avais Sinatra, mais il n'était plus de ce monde, et puis j'étais plus dans la tradition française quand même. Lorsque le maître vient de vous dire, vous êtes un chanteur, c'est comme si il me donnait un diplôme. Ça a été le début pour moi de, voilà, je me suis dit, je ne me suis pas trompé de boulot.
Et votre pire souvenir à l'inverse?
Mon pire souvenir... C'est lorsque j'ai fait un spectacle, je crois que c'était mon deuxième ou troisième spectacle, et que je n'avais pas encore de technique, tout ça, vocal, et j'étais à faune.
Ah.
Voilà, donc je ne pouvais pas chanter, mais je ne pouvais pas annuler le concert non plus, c'était impossible.
Oh là là.
Et ben, j'ai fait chanter toute la salle, toutes mes chansons, et j'ai pas chanté un mot. Et
c'est les gens étaient... dans Jean-Michel à vous, c'est ça?
Et les gens étaient contents.
Vous mimiez simplement avec...
Je commençais la chanson.
Et les gens chantaient.
J'ai perdu, et les gens... Vous êtes arrivés.
Ah oui, ça fait mal.
Je ne pas chanter, mais je n'ai pas voulu annuler le show, parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire encore.
Puis les gens payent leur place, attention.
Ils payent leur place, mais c'était... Je crois que j'ai eu, je sais pas quoi... un truc qui m'a brûlé, j'avais plus de voix. Mais j'ai quand même conservé le spectacle et les gens ont chanté pour moi à ma place.
Avec succès, non?
Succès, je ne sais pas, mais je me suis dit, maintenant, il faut faire gaffe à la voix. Et c'est là j'ai commencé à faire attention. Parce que
protéger.
Oui, à protéger, je mettais une écharpe et tout ça. Mais c'est vrai, c'était mes débuts, je n'étais pas encore...
Est-ce que, Danny Briand, vous avez une manie, un tic, voire un toc avant d'entrer sur scène ou sur un plateau?
Ça dépend. Avant d'entrer sur scène, comme je prends le spectacle comme quelque chose d'assez mystique, c'est-à-dire une communion entre les gens, je crois que je prie un peu. Je prie, je m'isole un peu dans ma loge et j'essaie de faire le vide et je fais une prière. Je ne sais pas à qui, mais je demande que tout se passe bien, que, voilà, que la salle soit pleine d'amour et tout ça. Ça, voilà, c'est un de mes...
Vous avez toujours été entendu ?
Oui, ah ouais. Oui, c'est très important de se concentrer avant d'entrer sur... J'arrive pas à rentrer comme ça, il faut, ouais, c'est un rituel que j'ai. Une demi-heure, je fais le silence, une sorte de méditation en fait, et puis j'arrive en essayant de donner le maximum aux gens.
Et si vous n'aviez pas été chanteur, quel métier auriez-vous pu exercer ?
Écoutez, moi j'aime beaucoup le spectacle, j'ai toujours aimé, depuis que je suis petit, j'aime le cirque et tout ça, donc je pense que si par exemple j'avais pas eu vocalement, j'avais pas de possibilité, je pense que j'aurais été comédien. Ou acteur. Mais ma mère voulait que je sois docteur, donc peut-être j'aurais pu être docteur aussi.
Vrai que vous avez une tête de docteur.
Ah, j'ai une tête de docteur.
Je trouve.
Ben exactement. Et vous m'avez pas vu avec mes lunettes.
J'espère qu'on trouvera des photos sur le web.
Ouais.
Docteur Stallone, on va essayer de faire une fusion entre les différents visages. Plus sérieusement, si vous aviez une seule personne célèbre que vous pourriez faire renaître, ce serait qui ? On a beaucoup parlé, évidemment.
Oui, d'Aznavour.
D'Aznavour, mais...
Moi, j'adore Yves Montand, par exemple.
Ah ouais.
Et je rêve qu'il y ait un jour un biopic sur Yves Montand, parce que c'est une vie tellement riche. J'ai failli un jour le faire, mais on m'a dit, on te connaît avec ta voix de chanteur, ça ne passera pas. Mais c'était un de mes rêves, un moment, de faire... La vie d'Yves Montand, c'est énorme, quoi. C'est un jeune émigré italien qui arrive dans les années 30 en France.
Il s'appelait Ivo Livi, d'ailleurs.
Oui, qui fuit le fascisme. Et puis après, il rencontre Edith Piaf et il devient, dans les années 40. Puis après, Simone Signoret. Puis après, il devient une grande vedette en Russie. Puis après, une grande vedette à Hollywood. Enfin, il traverse tout le siècle. Ouais. Et je trouve que ce type a un parcours incroyable.
Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et dans votre apparence physique ? Est-ce que vous avez des complexes ?
Des complexes... Oui, j'en ai, mais bon, est-ce que c'est l'endroit pour en parler ?
vous savez, ici, c'est un peu le divan. On est vos psychanalystes.
J'ai des complexes physiques, comme tout le monde. Ouais. Non, je sais que je suis assez gourmand.
Ouais.
Et des fois, il peut m'arriver de prendre du poids.
C'est vrai ?
Ouais.
Mais vous faites
attention. Et donc, je ne rentre plus dans mon costume.
Ouais.
Et ça, c'est super angoissant, parce que quand le concert est dans deux jours, bon, alors j'y vais, je fais du vélo, mais c'est ça que ça m'embête.
Votre costume, c'est votre juge de paix, en fait.
Ouais, c'est exactement. Vous voyez, vous portez très bien le costume. Vous avez la ligne.
En fait, il est nouveau, celui-ci. C'est pour ça qu'il me va si bien.
Non, mais vous avez la ligne. En fait, dans nos métiers, il faut avoir la ligne. Et ça, c'est pas évident, parce que quand on est gourmand comme moi, je suis d'origine méditerranéenne, la cuisine, c'est assez riche, tout ça, donc il faut faire gaffe.
Et vous avez échappé, on est entré dans la période de l'élection présidentielle, on en parlait. Est-ce que, si on fait un peu de fiction, vous êtes nommé, élu, chef de l'État demain, votre première décision, ce sera laquelle ?
C'est magnifique. J'y ai jamais pensé, mais c'est vrai. Hein. C'est une responsabilité. Hein. Qu'est-ce que font en fait les chefs d'État dès qu'ils sont élus souvent ?
Souvent, ils vont à un endroit symbolique.
Ouais. Souvent, ils font un petit dîner ou un déjeuner déjà.
Mais souvent, le lendemain, ils vont à un endroit particulier en France, chargé d'histoire.
C'est une drôle de question. J'essaierai de réaliser les rêves des gens.
C'est vaste.
Oui, c'est vaste.
Et ambitieux.
Mais je demanderai à chaque personne de m'envoyer une lettre avec le rêve, mais des rêves réalisables. Et j'essaierai, pendant mon mandat, d'exaucer les rêves des gens. Évidemment, si mon mandat est de 4 ans, ça peut être un peu court, mais si j'ai deux mandats, je me mettrai 8 ans à réaliser le rêve de chaque personne. Je serai un peu le Père Noël.
C'est 5 ans, je vous rappelle.
4 ans, c'est aux États-Unis.
Ouais.
On peut faire 10 ans. En 10 ans, je pense qu'on peut réaliser. Mais je demanderai des rêves réalisables, pas des choses.
Il va falloir convaincre plus de 70 personnes de vous écrire, 70 millions de personnes de vous écrire.
Non, mais peut-être que c'est ça le rôle d'un président de la République, de réaliser les rêves d'une nation, en tout cas.
Alors nous, on aime bien les chevaux cabrés, d'ailleurs. Vous savez, des voitures rouges. Enfin bon, on vous en parlera après l'émission.
Ça marche. Je vais noter.
On ne sait jamais si un jour vous êtes président de la République. Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez ?
Ma femme.
Votre femme.
Enfin, si tant est que je la possède.
Oui, c'est vrai.
Non, mais je suis content de... Je me suis marié tard et je trouve que le couple, la famille, les amis, l'amitié en tout cas, désintéressée. Ouais. Je trouve que c'est très important pour construire un homme.
C'est dit. Et on termine sur une note plus légère, entre guillemets, hein, en musique, la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment.
Dans les rues d'Europe, Noël.
Petit Papa Noël.
Petit Papa Noël, vous êtes en train de préparer Noël.
Mais non, mais parce que cette chanson me ramène tout de suite à mon enfance, avec Tino Rossi, c'est la version de
Tino Rossi.
Et c'est comme une Madeleine de Proust. Et donc, je retrouve la magie de Noël avec, dès que j'écoute le titre. Et je vous assure, parce que les chansons sont des vraies Madeleines de Proust. Hein. Vous les écoutez, vous vous replongez dans votre inconscient. C'est très puissant, la chanson. Hein. Et en ce moment, j'écoute ça pour me rappeler que j'avais des rêves quand j'étais ado ou quand j'étais enfant. Et voilà, de garder cette magie de Noël.
Il n'y a aucun projet de la réentérepréter à la sauce d'Annie Briand.
Pourquoi pas, pas. Vous savez, les crooners, en général, font des albums de Noël où ils réinterprètent toutes les chansons.
Frank Sinatra.
Voilà, Frank Sinatra faisait des albums de Noël. Dean Martin en a fait. Michael Bublé, aujourd'hui, en a fait. Il faudrait qu'on s'y mette, nous, les Français. Ouais.
Là, c'est un appel
oui,
à vos confrères.
Voilà, tout à fait.
Merci, Danny Briand.
Merci
je rappelle,
vous.
On
Merci
vous retrouve. Vous restez encore avec nous aux commandes de Chantons Aznavour, demain soir, hein, ce vendredi, en prime time, et c'est sur France 3. Et nous recevons dès demain un nouvel invité.
Oui, demain, nous allons recevoir un présentateur qui est à la télévision depuis plus de 50 ans. Il est indéboulonnable. Vous le retrouvez assez régulièrement aux commandes des tirages de la Française des Jeux. Il va présenter la cérémonie Miss France, là, qui a lieu ce samedi sur TF1 en première partie de soirée. Il s'agit de l'inébranlable Jean-Pierre Foucault qui sera avec nous demain sur ce plateau. Soyez nombreux, il aura beaucoup de choses à dire, vous verrez.
Merci Danny Briand et chantons
Aznavour. Chantons Aznavour, France 3.